Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, beau réveil ce lundi matin. On espère que vous avez bien profité de ce beau week-end ensoleillé et que le passage à l'heure d'été hier s'est fait tout en douceur.
On est très heureux de vous retrouver. Alors à la même heure, hein, 4h57. Et on remet une pièce dans la machine, c'est reparti. On est ensemble jusqu'à 6h30, pas d'erreur. Dans l'actualité, ce 28 mars, Julien.
Le début officiel de la campagne électorale avec une stricte égalité des temps de parole des candidats. L'un d'entre eux sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13 ce matin sur Europe 1. L'écologiste Yannick Jadot.
À la une également, les tensions hier en Corse.
Oui, lors de rassemblements devant deux casernes près de Bastia et d'Ajaccio, manifestation à l'appel d'organisations indépendantistes qui accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise alors que se tenaient au même moment, vendredi, les obsèques d'Yvan Colonna.
Une vidéo non authentifiée circule massivement sur les réseaux sociaux.
Le temps du deuil est-il terminé sur l'île de Beauté? Cette vidéo n'est-elle qu'un prétexte utilisé par les indépendantistes? Jusqu'où peut aller la violence?
Autant de questions qu'on posera à 6h10 à un homme qui connaît bien la Corse et sa complexité, le journaliste Jean-Michel Verne. Rendez-vous à 6h10.
Et puis on espère que vous avez profité de ce beau week-end ensoleillé. C'est le printemps et les arbres sont en fleurs.
Oui, exactement, c'est tout simplement le bonheur. Mais la contrepartie, c'est le nez qui coule, les yeux qui piquent et cette vilaine toux d'irritation. Les pollens s'envolent et les allergies respiratoires reviennent.
Et d'après le réseau national de surveillance aérobiologique, nous sommes cette semaine en plein milieu des pics de pollen.
Quels pollens sont les plus allergènes? Quelles sont les conséquences sur votre santé, votre quotidien? Et quelles astuces pour minimiser ces allergies? Toutes ces questions seront posées à 6h moins le quart à une allergologue.
Et votre partition pour conclure?
Quand le funk est aussi une affaire de femmes dans les années 70. Immense succès, les Dire Malade de Patti LaBelle, la partition de ce groupe de filles, les LaBelle à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Je ne résiste pas au dicton du jour. Ah. À la Saint-Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles.
Ah ben on va aller voir passer des hirondelles, ça c'est certain. Je peux vous dire que les températures sont plus que belles puisque nous sommes plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison pour aujourd'hui et il va falloir en profiter.
Conseil. Parce que les hirondelles vont repartir en Afrique d'ici la fin de semaine?
Bah, les hirondelles, elles risquent d'avoir froid aux ailes, ouais, c'est sûr, d'ici la fin de semaine parce qu'on va avoir un vrai changement de temps. Donc aujourd'hui, on voit le changement s'opérer doucement. Tout le long de la façade atlantique, le ciel va se voiler, c'est-à-dire que le ciel limpide que nous avons eu ce week-end, il sera un petit peu plus laiteux. Ça va de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. En Bretagne, cet après-midi, des averses sont possibles. Sur la moitié est, là, on a toujours beaucoup de soleil, un ciel toujours limpide, bleu, azur. C'est agréable encore sur la moitié est. Dans le sud, le vent d'autan souffle toujours jusqu'à 70 km/h. Alors, côté température, il fait très doux. Moins 1 à Charleville-Mézières, 0 au Puy-en-Velay, 3 à Caen et Lyon, 7 à Paris, 12 à Biarritz et cet après-midi, 17 à Lorient, 22 degrés à Paris, c'est plus de 10 degrés au-dessus de la normale et 23 pour Strasbourg.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Après le calme, la tempête, des rassemblements ont dégénéré hier en Corse. Les indépendantistes en colère reprochent à des CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Yvan Colonna. Nous entendrons l'un d'eux dans un instant. Nicolas Sarkozy, François Fillon et maintenant Éric Zemmour. Le candidat reconquête à la présidentielle s'est offert un meeting au Trocadéro hier à 2 semaines du premier tour. Tout un symbole pour celui qui se présente comme le candidat de la droite. Reportage à suivre. Et puis, c'est une menace prise très au sérieux depuis quelques jours par l'OTAN. Le recours aux armes chimiques, voire nucléaires, par la Russie en Ukraine. Et bien actuellement en Norvège, 30 000 soldats occidentaux se préparent à ce genre d'attaque. Immersion dans ce journal avec notre envoyé spécial.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce lundi 28 mars vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Après le deuil et le calme, le retour des tensions en Corse hier où des échauffourées ont éclaté devant deux casernes à Furiani et Ajaccio. Les organisations indépendantistes qui ont appelé à se rassembler reprochent à des CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Yvan Colonna. Parmi elles, Corée Infronte, Paul-Félix Benedetti, figure du mouvement.
La Corse est un volcan en éruption en ce moment. Toute cette jeunesse n'est pas la jeunesse du FLNC, c'est une jeunesse qui a aujourd'hui un peu plus de 20 ans, qui est née dans le calme, qui est née dans la transition démocratique et aujourd'hui, ils se rendent compte que ça mène à l'impasse et qu'ils ont peut-être la volonté qu'on a eue, nous, il y a 30 ans, de passer à des choses plus violentes. Moi, j'ose espérer que les ministres qui sont venus, les annonces qui ont été faites, ne sont pas des mesures dilatoires pour gagner 20 jours de tranquillité pendant la période présidentielle, parce qu'à ce moment-là, il y aura 20 années de chaos derrière. Personne ne peut lancer un appel à la non-violence. La non-violence aujourd'hui, c'est un non-sens, puisque ce qui se passe là, c'est une expression démocratique, une expression de la rue. Elle peut vous apparaître turbulente, mais c'est la juste proportion par rapport à l'agression qu'on subit par la négation du suffrage universel depuis 5 ans. Il est de la responsabilité exclusive de l'État d'apporter une solution politique qui permette de sortir par le haut.
L'indépendantiste Paul-Félix Benedetti au micro de notre correspondant Frédéric Michel.
La présidentielle, cela fait déjà de nombreuses semaines qu'elle a commencé, mais c'est aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la campagne.
Et c'est par exemple à partir d'aujourd'hui que vous devriez recevoir les programmes des candidats dans vos boîtes aux lettres. Des candidats qui donnent tout à 2 semaines du premier tour.
Et notamment Éric Zemmour.
Oui, il s'est offert le plus gros meeting de sa campagne hier, place du Trocadéro à Paris. Le Trocadéro comme François Fillon en 2017, Nicolas Sarkozy en 2012, symbole très fort donc pour celui qui veut s'imposer comme le candidat de la droite. Reportage de Victor Chabert.
Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes, Éric Zemmour avance d'un pas lent sur le parvis du Trocadéro ensoleillé. Seule la tour Eiffel en arrière-plan. Arrivé sur scène, le candidat revendique 100 000 participants et martèle l'union des droites.
Oui, j'aurais besoin d'Éric Ciotti. Applaudissez-le. Oui, j'aurais besoin de François-Xavier Bellamy, de Laurent Wauquiez, de Nadine Morano, de Jordan Bardella. Applaudissez-les.
Éric Zemmour va même jusqu'à dire « Nous sommes les seuls à être de droite dans cette campagne ». L'ancien journaliste s'est ensuite posé comme le candidat du réel et a insisté. Il est venu ici parler à toute la France. À la fin, les militants sont conquis comme ce soutien ancien abstentionniste.
Éric Zemmour, il a été extra. Il a été dans l'humain, il a été dans l'émotion, il a été dans la sincérité. Je pense que beaucoup de gens attendaient ce discours-là.
Seule polémique vite éteinte quand la foule scande « Macron assassin » lorsque le candidat cite pour exemple plusieurs drames et faits divers. Éric Zemmour a fait savoir a posteriori qu'il n'a pas entendu et qu'il condamne ses propos.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. De son côté, Yannick Jadot a donné hier le plus gros meeting de l'histoire des écologistes au Zénith de Paris devant plus de 3500 militants. Yannick Jadot invité ce matin d'Europe 1 de 8h13 à 9h.
Le président candidat Macron, qui est aussi chef de l'Europe, doit s'entretenir avec Vladimir Poutine.
Oui, aujourd'hui ou demain, objectif organiser de nouvelles évacuations de civils à Mariupol en Ukraine, alors que dans le même temps, un nouveau round de pourparlers doit avoir lieu en Turquie pour mettre fin à la guerre. Justement, Volodymyr Zelensky dit étudier en profondeur l'un des points cruciaux des négociations, la neutralité, les garanties de sécurité et le statut dénucléarisé de l'Ukraine.
Le nucléaire, mais aussi les armes chimiques et biologiques, voilà les types d'armes que la Russie pourrait utiliser en Ukraine.
C'est en tout cas la crainte des Occidentaux. Conséquence, l'OTAN envoie des équipements de protection et le régiment de défense nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, le NRBC de l'armée de terre française, s'entraîne en ce moment en Norvège. Il faut être prêt à toute éventualité. Notre envoyée spéciale en Norvège, Caroline Baudry, a enfilé son treillis et participé aux essais.
Les casques militaires et sacs à dos tombent dans la neige. Les soldats se délestent, direction les tentes de décontamination. Les dragons les attendent, masques noirs et combinaisons filtrantes intégrales sur ordre de Capitaine Jack qui dirige l'opération.
Là, il y a plusieurs étapes. La première, on applique de la terre de foulon sur la tenue. Ça permet, on enlève en fait le plus gros de la contamination. L'étape numéro 2, c'est celle de l'enregistrement. Nom, prénom, grade. Et ensuite, on va débuter ce qu'on appelle le protocole de déshabillage. L'objectif, c'est de décontaminer 40 soldats équipés à l'heure.
C'est moins quand les soldats sont blessés. Une fois l'urgence vitale écartée, les dragons découpent soigneusement les vêtements au ciseau autour des plaies qu'il faut aussi décontaminer. Faux sang, fausses convulsions, mais vrai matériel médical dans la salle de soins. L'exercice est millimétré.
Au moment où j'ai un soldat ou un véhicule qui quitte mon site, il n'y a absolument plus aucun doute. sur le fait qu'il est parfaitement apte à reprendre le combat et qu'il a été entièrement décontaminé. Ce site de décontamination, il est capable également de prendre en compte évidemment la menace donc nucléaire et radiologique.
À une heure de route de ce grand parking, dans les tentes du sommet de la hiérarchie des forces françaises de l'OTAN, un général l'assure, la guerre fictive menée en Norvège est très proche de ce qu'il pourrait se passer lors d'un déploiement de l'alliance militaire. Elvé Roum, Caroline Baudry, Europe 1.
On revient en France, ainsi qu'un 5 heures passées de 7 minutes, et plus précisément du côté de Lille, où les Bleus arrivent ce matin.
Oui, et après son succès 2-1 face à la Côte d'Ivoire vendredi, l'équipe de France affronte demain l'Afrique du Sud en match amical à Villeneuve-d'Ascq, dans un stade plein à craquer. Vendredi, c'est un revenant qui a marqué les esprits. Olivier Giroud, mais sera-t-il de l'aventure Coupe du Monde 2022? Battra-t-il le record de buts inscrits en sélection? Rien n'est joué, Jean-François Pérez.
En effet, le but de Giroud a fait plaisir à des millions de supporters, mais il est le fruit d'un concours de circonstances presque incroyable. Blessure de Benzema, pépin au RL pour Mbappé. L'attaquant du Milan AC a-t-il rebattu les cartes au pays de Pagnol? Réponse très mesurée de Didier Deschamps.
Il a retrouvé le groupe, tant mieux pour lui qu'il ait augmenté son compteur. Alors après, je sais, vous allez, eh oui, après, si, pourrait, on verra.
8 mois que Giroud n'avait pas été rappelé malgré des prestations remarquables en Italie. On se disait que Didier Deschamps avait tiré un trait sur le champion du monde, désormais âgé de 35 ans, il a encore prouvé son pragmatisme. Quant à son adjoint Guy Stéphan, il explique à Europe 1 pourquoi on ne sélectionne pas Giroud en 2022 comme un jeune de 20 ans.
Un joueur qui a été titulaire longtemps, cadre dans l'équipe, c'est difficile après de revenir en équipe nationale, de se retrouver remplaçant.
Olivier Giroud n'est plus qu'à 4 longueurs des 51 buts de Thierry Henry. Le record est proche, mais aussi très loin pour cet ancien Batman des Bleus devenu simple joker.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. On termine ce journal avec la cérémonie des Oscars qui est en cours au moment où je vous parle. Et la soirée de gala a été ouverte par une performance de la chanteuse Beyoncé qui a interprété la bande originale du film La Méthode Williams qui retrace les débuts dans le monde du tennis de Vénus et Serena Williams, un show depuis les cours de tennis de Compton où s'entraînaient les deux championnes. On écoute un extrait. Du grand Beyoncé, hein. Be Alive, c'est la bande originale de la méthode Williams.
En voilà. Ouverture donc de la 94e cérémonie des Oscars où une minute de silence a par ailleurs été respectée en soutien à l'Ukraine. Et on l'apprend à l'instant, la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion a été sacrée à l'instant meilleure réalisatrice pour son film The Power of the Dog qui est visiblement disponible sur Netflix. C'est la troisième femme à être sacrée. Elle avait déjà reçu un Oscar du meilleur scénario en 1994 pour La Leçon de Piano. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
À 5h09 sur Europe 1, c'est les courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Fontainebleau et mon pari gagnant sera le 201 Ego. Lauréat de peu, mais avec la manière, lors de ses deux dernières courses l'an dernier, ce véritable sprinter, désormais âgé de 4 ans, effectuera cet après-midi une rentrée très attendue. De par ses aptitudes, mais aussi son tempérament, je sais qu'il va se présenter d'emblée dans une condition physique très avancée, ce qui devrait lui permettre d'effectuer une réapparition victorieuse. Notez bien, pour Fontainebleau, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 1, Ego.
Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une petite demi-heure. À tout de suite.
Aujourd'hui sur Europe 1, Christophe Ondelatte vous raconte...
Je m'en vais vous narrer une affaire criminelle truculente de 1772, c'est-à-dire d'avant la Révolution, sous le roi Louis XV. L'histoire d'un curé qui en empoisonne un autre à l'arsenic et par jalousie.
Retrouvez la suite de ce récit aujourd'hui à 14h sur Europe 1 dans On de la Traconte et quand vous voulez en podcast. Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Merci d'être avec nous. Bon réveil, bon lundi à 5h10. C'est le retour du pressing avec nous Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Martin. Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux. Quand les artistes fuient la campagne, titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui s'est sûrement inspiré de l'article du magazine Rolling Stones que vous nous aviez raconté jeudi dernier, Omblin. Lindon, Toretton, Macias, Balasco, Noah ou Jaoui se sont engagés lors des précédentes présidentielles, mais s'abstiennent cette année, comme la grande majorité des stars. Ils craignent les polémiques sur les réseaux sociaux et de perdre une partie de leur public, écrit Le Quotidien. Kharkiv résiste sous le feu des bombes russes, peut-on lire en une du Figaro qui publie un long reportage dans les ruines de la deuxième ville d'Ukraine, transformée en champ de ruines, mais qui n'est pas tombée aux mains des Russes après un mois d'offensive. Et puis les rois du pétrole à la une de L'Équipe au lendemain du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite, Grand Prix remporté par le champion du monde en titre Max Verstappen, après une lutte épique avec la Ferrari de Charles Leclerc. Voilà pour les unes, Omblin. On commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné ?
Eh bien voilà une décision de l'éducation nationale que nous approuvons à 200% ici et que nous encourageons avec force, que tous les collèges de France possèdent leur propre web radio. Une web radio fabriquée, animée par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire dans Le Parisien ce matin. Ces journalistes en herbe ont entre 13 et 15 ans et ils se frottent au micro d'abord avec appréhension et ensuite avec plaisir et fierté.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est à la RWR, France 1 Web Radio, et on va parler de la pollution numérique.
Voilà, on salue les élèves du collège.
Méfiez-vous.
Pierre de Ronsard à Poitiers, qu'on vient d'entendre. Le Parisien est allé rendre visite aux élèves de Claude Brosse de Charnay-lès-Mâcon, un établissement d'enseignement régional adapté en Saône-et-Loire. Et on les voit donc dans une pièce avec des micros sur pied posés sur une table ronde, des casques, des câbles partout. On connaît bien une table de mixage. La Web Radio est financée par le collège, sur le budget du collège. Ces élèves de 4e sont encadrés par deux enseignantes, des profs auto-formés. Reportage pendant les cours, micro-trottoir pendant la récréation. C'est un calvaire les micro-trottoirs quand on est en stage, en plus quand on commence à la radio. C'est le baptême du feu, hein, qui connaissent bien, commence bien. Interview.
On a connu.
Voilà. Et l'interview par exemple de la surveillante adorée de tous qui quitte l'établissement. Les outils radio n'ont plus de secret pour eux. Les émissions sont ensuite enregistrées, mais dans les conditions du direct avec à peine un peu de montage, bon, comme nous. Rendez-vous ensuite pour une diffusion hebdomadaire le jeudi à 16h30 pendant les 5 premières minutes de l'heure d'étude. Une grande messe qu'on débriefe ensuite comme le journal de 20h. Les vertus des web radios construites par des collégiens sont multiples. Pour la confiance d'abord, vaincre sa timidité, la peur du regard des autres. Pour la gestion du stress, cela permet d'être plus à l'aise à l'oral. Ça leur permet aussi de prendre la parole et ça leur servira toute leur vie. Et puis ces ados qui n'écoutent en général que des radios musicales, s'ils écoutent la radio ou aiment passer de longues minutes sur les réseaux sociaux, se frottent à l'actualité. Ils voient comment se fabrique une info, l'importance de recouper cette info, d'appréhender une fake news et de lutter contre. Bientôt, les collèges auront leur radio et on applaudit dès demain, c'est-à-dire dans Le Parisien.
Merci beaucoup, Omblin, pour cette jolie initiative. Martin, c'est à vous.
Oui, avec une première historique hier en cyclisme, la première grande victoire d'un coureur noir africain sur une épreuve World Tour. Alors, le World Tour, hein, c'est l'équivalent de la première division des courses cyclistes. Et c'est l'Érythréen Binyam Girmay qui a remporté Gent Wevelgem. Alors, ce n'est pas l'un des 5 grands monuments du cyclisme, comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, mais Gent Wevelgem, hein, c'est une classique quasi centenaire remportée par les plus grands et qui se déroule dans la Mecque du vélo, hein, les Flandres belges. C'est peu dire, donc, que Girmay a signé un exploit, lui qui n'avait avant cette semaine jamais couru sur des pavés. Mais le jeune érythréen de 21 ans est un prodige, un vrai. Il avait décroché une très belle médaille d'argent au championnat du monde espoir l'an dernier. Déjà une grande première pour le continent africain et déjà en Belgique, décidément. Cette année, hein, Girmay confirme au plus haut niveau et cette victoire a une saveur particulière. Hein, elle va changer beaucoup de choses pour mon futur et celui des coureurs africains, a confirmé le héros du jour après son triomphe.
Un cyclisme africain qui ne demande qu'à éclore, Martin.
Oui, ça fait plusieurs années déjà que les coureurs africains pointent le bout de leur nez sur les grandes courses de l'année, sur les grandes courses cyclistes, pardon. On les voit notamment sur le Tour de France. Un Sud-Africain, Daryl Impé, a d'ailleurs porté le maillot jaune, c'était en 2013. Mais l'arrêt de l'équipe MTN Kubeka, la première équipe africaine à participer au Tour, a mis un petit coup d'arrêt à ce développement. Un autre coureur érythréen, Nathanael Beran, avoue ce matin dans l'équipe que les équipes professionnelles ont encore du mal à faire confiance aux Africains, craignant notamment des problèmes de visa, parce que bon, il faut se déplacer partout dans le monde et les passeports africains sont pas les passeports les plus utiles pour obtenir des visas, enfin les plus pratiques. Mais les courses sur le continent noir continuent, elles, de se développer. Les équipes européennes s'y rendent de plus en plus pour profiter notamment des températures clémentes à la fin de l'hiver. D'ailleurs, l'Afrique va accueillir ses premiers championnats du monde. Ça sera en 2025 au Rwanda, un pays passionné de vélo, tout le monde vous le dira, comme l'Érythrée.
Il y a le Tour du Rwanda,
c'est une course où on voit des dizaines de milliers de spectateurs au bord des routes. Alors d'ici là, le coureur de l'équipe Wanty-Gobert aura peut-être garni un peu plus l'armoire à trophées. Et pourquoi pas avec une étape sur le Tour d'Italie en mai prochain. C'est son prochain grand objectif cette saison. L'Érythrée étant une ancienne colonie italienne, ça serait un beau symbole d'être le premier noir africain à y gagner. Un rêve absolu même pour Guirmay. Guirmay, le grand jour, c'est à lire dans l'équipe ce matin.
Merci beaucoup Martin pour cette jolie histoire encore une fois. Nous avions conclu le pressing vendredi dernier au Royaume-Uni avec les terribles corgis de Buckingham Palace. Eh bien je vous propose
ce
matin...
Ils ne peuvent plus être promenés par la reine.
Oui absolument, c'est surtout ça, la pauvre. Alors, je vous propose d'y retourner à Buckingham Palace, d'autant que le réveil de la famille royale britannique risque d'être compliqué ce matin. Il faut dire qu'hier soir, un documentaire aux révélations explosives a été diffusé à la télévision anglaise. Son titre est sans équivoque, Britain's Traitor King. Le roi traître, il y a de quoi avaler de travers son porridge. Ce roi, en l'occurrence, est l'oncle de Sa Majesté, la reine Elisabeth II, l'infâme et éphémère Édouard VIII, que les amateurs de la série The Crown connaissent bien, notamment pour son bref passage sur le trône, seulement 326 jours de règne. Vous en connaissez sûrement la raison principale. Édouard VIII a provoqué une crise constitutionnelle en voulant épouser Wallis Simpson, une roturière américaine divorcée de son premier époux et en instance de divorce avec le deuxième. Pas vraiment dans les codes des années 30.
Non, pas vraiment.
Mais ce n'est pas l'unique explication au règne éclair d'Édouard VIII. Voyez-vous, il avait avant la guerre une forte attirance pour le régime d'Adolf Hitler, un fâcheux tropisme qui aurait d'ailleurs fait pencher le gouvernement anglais pour son abdication en 1936. Là encore, tout ça est relativement connu du grand public. Ce qu'on ignorait en revanche, c'est que le flirt avec les nazis avait été poussé jusqu'à la collaboration active, comme le révèle ce film d'historiens qui ont travaillé sur des documents allemands conservés dans les archives royales britanniques. Document inédit qu'une nouvelle politique d'accès a permis de consulter. Le premier scoop nous concerne, nous, Français, au premier chef. Automne 1939, l'ex-roi, devenu simple duc après son renoncement au trône 3 ans plus tôt, est dépêché sur les lignes défensives françaises en sa qualité d'officier de liaison. Visite au cours de laquelle il relève les points faibles de notre armée, des observations minutieusement retranscrites dans 4 rapports que l'état-major britannique ignore superbement. Pas les nazis qui voient là des informations de première main. Ils sont intéressés et le font savoir à l'ex-monarque via l'un de ses amis, Charles Bedeau, un affairiste franco-américain à la solde des Allemands, ce que n'ignorait absolument pas Édouard VIII. Les rapports ont donc été transmis aux nazis et selon l'historien à l'origine du documentaire, ils ont nourri le plan d'invasion de la France, parfaitement mis à exécution quelques mois plus tard. 2 ans plus tôt, c'est dans le château que possède l'espion nazi Charles Bedeau que Wallis et Édouard se marient. L'amour plutôt que la couronne. Ben voyons, car en guise de voyage de noces, le couple choisit l'Allemagne pour une visite de 15 jours en octobre 1937. Ils y visitent des usines, tendent le bras droit en l'air et rencontrent tout le gratin nazi, dont le Führer, qui les reçoit en grande pompe dans son nid d'aigle de Berchtesgaden. Un séjour merveilleux, ce sont les mots employés par Édouard VIII dans le courrier de remerciement envoyé quelques semaines plus tard à Hitler. Partisan de l'apaisement avec le Reich avant-guerre, l'ex-roi continue, après le déclenchement des hostilités, à militer secrètement pour une paix séparée avec son pays, quitte à ce que ses anciens sujets en paient le prix ultime. La poursuite de bombardements intensifs rendrait l'Angleterre prête pour la paix, aurait-il conseillé à l'ambassadeur d'Allemagne à Lisbonne. Conseil que ce dernier s'est empressé de transmettre à Berlin. 2 mois plus tard, le blitz commençait à pleuvoir sur Londres. Édouard VIII, la traîtrise d'un roi, c'est-à-dire ce matin dans Aujourd'hui en France.
Et on a eu une pensée émue pour la reine, alors, parce qu'effectivement, elle doit avaler sa couronne.
Ça va être difficile à avaler, mais il y a beaucoup trop d'or, mais oui, on pense à la reine. Merci.
Merci à vous, Julien. Merci, Martin. On vous retrouve dans 40 minutes pour l'espoir.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1. Les principaux titres, Alban Le Prince.
Ambiance très tendue en Corse hier, notamment à Furiani, où plus de 500 personnes ont manifesté devant une caserne de CRS à l'appel d'organisations indépendantistes. Elles reprochent à certains d'entre eux d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna vendredi dernier. La présidentielle, coup d'envoi officiel aujourd'hui de la campagne à 2 semaines du premier tour. Hier, c'est au Zénith de Paris que le candidat écologiste Yannick Jadot a organisé un meeting au Trocadéro pour Éric Zemmour. La guerre en Ukraine, nouveau round de pourparlers prévu en Turquie, aujourd'hui ou demain. Parmi les points cruciaux des négociations, la neutralité de l'Ukraine. Dans une interview aux médias russes, Volodymyr Zelensky a assuré que cette question est étudiée en profondeur. Et puis alors que Will Smith vient de remporter à l'instant l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la méthode Williams, l'acteur a vraisemblablement été victime d'un coup de sang et a giflé le présentateur Chris Rock.
Europe 1. C'est la chronique de ceux qui s'engagent et qui innovent à présent. Les initiatives en France, ce matin, nous emmènent Julien à Rennes.
Bonjour Nicolas Heuzé.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le président de Switch Energy, une entreprise qui veut tirer parti de l'énergie osmotique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, en deux mots, l'énergie osmotique, c'est une énergie qui se libère naturellement dès qu'une source d'eau douce rencontre une source d'eau salée. Et donc, on la trouve naturellement partout dans le monde, dans les deltas et les estuaires de la planète.
Quel est le principe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe, fondamentalement ?
Fondamentalement, c'est ce qu'on appelle une énergie de mélange, c'est-à-dire que les deux flux d'eau avec ce qu'on appelle des taux de salinité cherchent naturellement à se mélanger, ce qui engendre naturellement un déplacement, une circulation des ions. Et des ions en circulation, c'est de l'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Et le principe et l'objectif pour nous chez Switch Energy, c'est de capter cette énergie pour la transformer en électricité.
Et il y a potentiellement beaucoup d'électricité, enfin beaucoup d'énergie à récupérer de cette force de la nature.
Et oui, c'est un des grands intérêts de l'énergie osmotique, c'est qu'elle est massivement disponible sur la planète. Quand on prend tous les deltas, tous les estuaires de la planète, on estime que c'est à peu près 30 000 TWh d'énergie qui se libèrent chaque année. Alors 30 000 TWh, pour vous fixer un peu les idées, c'est plus que la demande d'électricité annuelle de la planète. Alors bien entendu, on ne pourra pas capter... Oui, tout à fait, oui, c'est massif. Donc on ne pourra pas capter ou transformer toute cette énergie, mais on pense qu'on peut probablement en transformer entre 10 et 20% en électricité.
Oui, ce qui permettrait d'économiser nombre de centrales nucléaires, j'imagine. On ne se penche sur cette source d'énergie que maintenant ?
Alors, non, c'est pas nous qui avons découvert cette source d'énergie. Ça fait plusieurs décennies, presque 75 ans, que des universitaires, des industriels essayent de capter et de transformer cette énergie. Le problème jusqu'à présent, c'est que les technologies disponibles, qui sont des technologies qu'on appelle membranaires, c'est-à-dire basées sur des membranes le long desquelles on fait circuler des flux d'eau douce et d'eau salée, les anciennes technologies étaient peu performantes et très très chères, basées sur des matériaux qui coûtaient très cher. Chez Switch Energy, grâce à la recherche française d'ailleurs, puisque notre technologie est basée sur les travaux de Normalsup et du CNRS en France, et grâce à la maturité des nanotechnologies, on a pu créer des nouvelles membranes qui sont 20 fois plus performantes et 10 fois moins chères que ce qu'on savait faire auparavant.
Mais vous arrivez à capter quoi ? Quelques watts ou quelques mégawatts à l'heure actuelle ?
Alors aujourd'hui, on a prouvé le concept complet au laboratoire et on est en train de préparer la première usine pilote, centrale pilote de production d'énergie osmotique qui sera basée dans le delta du Rhône et qui fera une puissance qu'on est en train de déterminer de plusieurs dizaines de kilowatts. Mais d'ici quelques années, c'est des usines de plusieurs dizaines, voire centaines de mégawatts qu'on pourra installer. Et si je prends une nouvelle fois l'exemple du Rhône, à moyen terme, on peut installer jusqu'à 500 mégawatts de puissance osmotique à l'embouchure du Rhône, ce qui est deux fois la consommation d'électricité de Marseille chaque année. Quoi.
Ouais, et ces futures centrales osmotiques, elles pourront fournir de l'électricité à un coût compétitif par rapport aux autres sources d'énergie ?
C'est tout l'enjeu. L'énergie osmotique, c'est un peu un graal des énergies renouvelables. C'est une énergie qui est évidemment totalement naturelle, totalement décarbonée, qui a l'avantage d'être permanente. On n'est pas du tout dépendant des conditions météo ou du jour ou de la nuit comme dans d'autres énergies renouvelables. Et on est au passage, et c'est un sujet important aujourd'hui, totalement indépendant. Je veux dire, par là, il n'y a pas besoin d'utiliser des matières premières qui viennent de l'étranger ou des métaux rares qui viennent de l'étranger. Donc c'est une technologie qui répond un peu à tous les objectifs de la transition énergétique. Et l'enjeu, c'était maintenant de trouver la technologie qui permette de la capter de façon compétitive. Et pour la première fois, grâce à notre technologie, on va pouvoir le faire, donc avec des coûts de revient qui sont tout à fait comparables avec ce que font les énergies renouvelables traditionnelles.
Quand est-ce que cette centrale pilote dans le delta du Rhône verra le jour ?
Alors notre objectif, c'est de démarrer la centrale pilote d'ici fin 2023, donc dans moins de deux ans. Et encore une fois, comme je le disais un peu plus tôt, l'objectif, c'est pas simplement une centrale pilote, c'est le déploiement à très grande échelle de l'énergie osmotique sur le Rhône, où on estime pouvoir installer jusqu'à 500 mégawatts de puissance.
Ouais, c'est un investissement, j'imagine, très conséquent. Est-ce que vous avez d'ores et déjà réuni tous les financements ou vous en cherchez encore ?
Eh bien, on continue à chercher régulièrement des financements. Aujourd'hui, on est soutenu par des fonds d'investissement français, par l'ADEME, par la BPI, mais évidemment... On a besoin de continuer de mettre en place des financements pour développer l'énergie osmotique. On a en France, grâce à notre technologie, plusieurs années d'avance dans le domaine. Donc pour le conserver, il faut vraiment qu'on puisse déployer une filière à partir de la France qui va demander des financements, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros qui vont devoir être mobilisés dans les prochaines années pour lancer et développer la filière.
Merci beaucoup Nicolas Heuzet de nous avoir présenté Switch Energy et par la même occasion l'énergie osmotique. On vous souhaite beaucoup de succès, on vous souhaite que ça marche. Je crois qu'on enfin notre planète en a bien besoin. À bientôt sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil avec Europe 1. Suivre le journal de Christophe Lamarre où nous irons en Ukraine qui entre ce matin dans son 32e jour de guerre. Et puis, dans un tout autre registre, une gêne saisonnière, les allergies respiratoires avec la floraison des arbres.
30% des Français souffrent d'allergies au pollen, nez qui coule, éternuement, les yeux larmoyants, la gorge qui gratte pour certains. Lorsque la nature reprend vie au début du printemps, c'est un cauchemar. Quels sont les bons gestes à adopter pour limiter ces allergies? On posera la question à une allergologue dans 15 minutes.
Et puis juste voilà. Après, ce sera votre prescription culture.
Lundi, on parle série avec Marie Jiquel et Youpi, c'est le retour de la chronique des Bridgerton, le carton de la plateforme Netflix, Parade amoureuse, réputation à tenir, complot et ragots, c'est le menu de cette deuxième saison.
Anissa Dadi.
C'est pas moi qui ai éternué.
Ah bon, c'est pas vous? On aurait
c'est
dit.
Pas moi.
Une France coupée en deux aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai qu'on va avoir une différence de temps et cette fois-ci la différence, eh bien, elle sera entre l'est et l'ouest du pays. Donc les nuages sont de retour par l'ouest avec déjà ce matin de la Normandie jusqu'aux Pyrénées un voile nuageux un petit peu plus important. On a un ciel beaucoup moins limpide au bord de l'Atlantique. Au fil des heures, les nuages vont s'épaissir avec des averses qui arrivent sur la Bretagne et la pointe du Cotentin. Cet après-midi. À l'est, ben là, tout va bien. Vous tirez une ligne entre Charleville-Mézières et Montpellier, et à l'est de cette ligne, ben, il fait très beau, le soleil brille, et c'est encore une journée de printemps de gagner. Profitez-en, conseil d'amis. 0 degré pour Avignon ce matin, 2 à Rouen, 4 à Besançon et Belfort, 6 à Saint-Etienne, 7 à Paris et 13 à Menton ce matin, cet après-midi, 13 pour Calais, 15 à Cherbourg, 17 à Quimper, 21 à Rennes et Nîmes, 22 degrés à Paris et 23 à Colmar ou Auxerre. C'est bien, bien au-dessus des moyennes de saison.
Météo signé Anissa Haddadi, merci beaucoup. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce lundi, le président ukrainien Zelensky fait un pas vers Moscou. Il se dit prêt à étudier en profondeur la question de la neutralité de son pays alors qu'un nouveau round de négociations débute cette semaine. La guerre et ses conséquences économiques pour les Européens. Plus de 2,50€ le litre d'essence en Allemagne, plus cher qu'en France. De nombreux automobilistes germaniques franchissent la frontière pour venir faire le plein dans les stations françaises. Et puis le livret A n'a plus la cote auprès des jeunes qui préfèrent investir leurs économies dans les crypto-monnaies. C'est l'un des enseignements de l'enquête annuel du Cercle de l'Épargne.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ce n'est qu'un pas, mais il permettra peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre dans les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Les négociations vont reprendre aujourd'hui ou demain en Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à étudier en profondeur la question de la neutralité de son pays. C'est l'une des 6 clauses exigées par Moscou pour cesser le combat.
Et en attendant, sur le terrain, l'offensive se poursuit.
Et l'armée russe annonce concentrer ses efforts sur la région du Donbass, dans le sud de l'Ukraine. Cela n'empêche pas Moscou de poursuivre les bombardements ailleurs, notamment à Kiev. Le nord-ouest de la capitale est régulièrement ciblé par les attaques. Notre envoyé spécial Nicolas Tonev a rencontré des habitants réfugiés dans un abri anti-atomique construit sous un hôpital. Des civils qui se retrouvent témoins malgré eux des réalités souvent morbides de la guerre. Reportage.
Le serpent de béton descend encore et encore jusqu'à une épaisse porte blindée.
Qui est là? Vous êtes du bon côté?
Oui, des gentils arrivés par hasard.
Vous habitez depuis longtemps ici?
Lui, depuis le 24 février.
Et qui habite là?
Des enfants et des familles, je m'appelle Alexei.
Des jeux d'enfants, mais dans une vaste pièce de vie grise, bétonnée, aux murs recouverts de recommandations à suivre en cas d'attaque nucléaire. Lit, table, une cuisine, jusqu'à 50 personnes dorment ici le soir.
Ici, rien ne nous tombe sur la tête. C'est classe. Regardez la ville, ils tirent, il y a beaucoup de maisons détruites. Juste à côté, ça a bombardé.
Ici, il y a des réserves, de la nourriture. Les médecins viennent là quand ça tire ou que ça bombarde.
Les médecins, l'hôpital au-dessus, ce qui fait d'Alexei et des réfugiés de l'abri anti-atomique les plus proches témoins de l'horreur du front.
En fait, c'est une ville souterraine qui occupe toute la surface sous le territoire de l'hôpital.
Guerre oblige, les propos d'Alexei sur ce qu'il voit sont calculés et subtils.
Là-bas, c'est la morgue, les réfrigérateurs avec les corps, mais là, il est encore un peu tôt pour nous.
Donc il y a beaucoup de morts.
Ils en amènent, c'est la guerre. Il n'est pas possible que d'un côté il y ait des morts et pas de l'autre. Malheureusement, ce n'est pas possible.
Il y a beaucoup de blessés civils.
Oui, beaucoup. Hier, ils ont amené deux civils qui avaient perdu leurs jambes.
Voisines de la morgue, les deux réserves de cercueils témoignent-elles aussi? Elles sont presque vides. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.
La guerre et ses conséquences économiques, les prix des carburants flambent en Europe, mais pas de manière homogène. Résultat, les automobilistes allemands viennent en France pour faire le plein.
2,30€ le litre de sans-plomb, c'est le tarif allemand en moyenne. Ça reste bien plus cher qu'en France, où le prix du carburant baissera de 18 centimes à partir du 1er avril. Depuis un mois, de plus en plus d'Allemands passent donc la frontière pour venir faire le plein chez nous. C'est ce qu'a constaté notre correspondante à Strasbourg, Tatiana Gelselmann.
C'est rentable. Voilà ce que disent tous les Allemands. À 2,12€ le litre de sans-plomb 95 contre 2,30€ en Allemagne, Shirin économise jusqu'à 10€ par semaine.
Je roule beaucoup, je travaille à Kehl, mais j'habite 100 km plus loin à Karlsruhe, donc ça finit par s'additionner. Du coup, je viens faire mon plein ici, une fois par semaine.
Et elle n'est pas la seule. Depuis début mars, Jason voit défiler une cinquantaine d'Allemands par jour dans sa station-service, alors qu'avant, c'était 2 maximum.
Je parle pas du tout allemand, du coup c'est très compliqué. Surtout qu'il y a eu beaucoup de vols à partir du moment où les prix ont augmenté. Du coup, tout le monde est obligé de payer en avance, même les Allemands. Et du coup, pour leur expliquer comment ça fonctionne, c'est très compliqué.
Mais la tendance pourrait à nouveau s'inverser, puisque l'Allemagne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait, elle aussi, réduire sa taxe sur les carburants. De quoi faire baisser le prix de 30 centimes par litre d'essence, 14 pour le diesel. Strasbourg, Tatiana Gelselmann, Europe 1.
Alors on peut aussi rouler moins vite pour économiser l'essence à Paris et dans la région Île-de-France. Il faudra aussi vérifier sa vignette critère, alerte à la pollution et restrictions de circulation maintenues à l'intérieur de l'A86. Seules les voitures critères 1 et 2 peuvent circuler.
Et ça s'accompagne d'une baisse de la vitesse de circulation de 20 km/h. Dernière ligne droite dans la course à l'Elysée, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille.
Éric Zemmour a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes hier au Trocadéro à Paris. Il promet de déjouer les pronostics qui le donnent absent du second tour. Meeting à Marseille pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise se rêve en pire cauchemar d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 4000 personnes aux Zénith de Paris pour Yannick Jadot. L'écologiste dit vouloir renverser la table.
Yannick Jadot qui sera d'ailleurs l'invité d'Europe 1 ce matin à partir de 8h13. Émission spéciale présidentielle jusqu'à 9h, animée par Sonia Mabrouk. Europe 1, il est 5h passé de 35 minutes. On en vient à ce drame qui avait ému la France entière 6 ans après l'accident de car de Rochefort. Le procès s'ouvre aujourd'hui avec un seul prévenu dans le box.
Il s'agit du conducteur du camion dont la route avait croisé celle d'un car scolaire. La ridelle, un montant latéral de la benne qu'il tractait, était resté en position ouverte. Choc d'une extrême violence. Bilan 6 adolescents tués. Le procès débute aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. Stéphane Place.
Durant ces 3 jours de procès, seul sur le banc des prévenus, Mathieu, le chauffeur du poids lourd. Ce matin du 11 février 2016, ce jeune employé de la société Eiffage entame une journée de travail banale. Au volant de son camion benne de 13 tonnes, à 800 mètres de l'entrepôt qu'il vient de quitter, il roule tranquillement, il brune un peu à Rochefort, les premières lueurs du jour apparaissent à peine. En face, arrive un car reliant Saint-Pierre-d'Oléron à Surgères. À son bord, 15 adolescents qui s'en vont retrouver leur salle de classe, leur cours. Mais lorsque les deux véhicules se croisent, un fracas terrible, une scène d'horreur. La ridelle du camion, une paroi métallique amovible, est restée ouverte sur le côté, à 90 degrés, en position horizontale. Elle dépasse et vient avec la puissance d'une lame cisailler littéralement la carrosserie du car, s'enfoncer sur toute la longueur du flanc. 6 jeunes sont tués, 5 lycéens, 1 collégien, 2 sont blessés grièvement. 6 ans après le drame, une question au cœur de l'audience qui sourira tout à l'heure devant le tribunal correctionnel. Pourquoi cette ridelle était ouverte?
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Autre procès, celui du meurtre d'une postière tuée d'une trentaine de coups de couteau à Montréal-la-Cluse dans l'Ain. 14 ans d'enquête, 2 hommes l'ont soupçonné avant qu'un 3e ne soit finalement trahi par son ADN.
Comment épargnent les Français? L'étude du Cercle annuel de l'épargne publiée aujourd'hui révèle quelques changements.
Et surtout chez les plus jeunes, ils ont tendance à délaisser les placements classiques type livret A pour des produits plus risqués, mais plus rentables comme les crypto-monnaies, Aurélien Fleureau.
Vincent a 19 ans, il est étudiant en informatique. Frustré du manque de rémunération de son livret A et après s'être bien renseigné, il a décidé de miser sur Sorare, jeu en ligne qui fonctionne avec la crypto-monnaie Ethereum.
Moi, j'ai personnellement investi 10 000 euros que j'avais sur un livret A où je perdais de l'argent avec de l'inflation. Et je me suis beaucoup renseigné quand même, parce que je pense que c'est important de se former avant de se lancer dedans. Mais je trouve que c'est carrément une super alternative au livret A.
Plusieurs milliers d'euros, mais pas toutes ces économies, c'est ce que constate et conseille Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, pour qui cet engouement de la jeune génération est tout à fait logique.
Le placement crypto, c'est du numérique. C'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui compris par les plus jeunes des épargnants. Il y a un transfert. Avant, on laissait dormir l'argent sur son livret A. Aujourd'hui, on espère faire une belle opération à travers les montagnes russes qu'offrent les bitcoins ou l'ensemble des crypto-monnaies.
47% des 18-24 ans considèrent les crypto-monnaies comme un placement intéressant. Et si l'on prend toute la population, c'est tout de même près d'un Français sur quatre.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et puis un mot de la cérémonie des Oscars qui est toujours en cours à Los Angeles. On vient d'apprendre que c'est le film Coda qui vient d'obtenir la récompense suprême du meilleur long métrage juste avant. C'est l'actrice Jessica Chastain qui a été nommée meilleure actrice pour son film, son interprétation dans les yeux de Tammy Faye. Et juste avant, c'est Will Smith, Oscar du meilleur acteur pour La méthode Williams. Et encore avant, c'est Jane Campion, meilleure réalisatrice pour The Power of the Dog. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses à présent, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1200 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de Fontainebleau que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic qu'il frouche mémorise le numéro 2, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur ce type de tracé rectiligne, notamment celui de Fontainebleau sur lequel il a souvent très bien réussi. On lui opposera les numéros 1 Mubaleg, déjà lauréat de deux quintets similaires, 14 High Dream, toujours à l'arrivée sur cette ligne droite de Fontainebleau, 5 Chirimiri et 13 Snow Empress, entraînés tous les deux par Christophe Ferland, qui n'aime jamais effectuer un aussi long déplacement depuis la teste, non sans avoir quelques certitudes. Enfin les numéros 12 Santi Delmar, 3 Tudobem et 4 Wedjan compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, As, 14, 5, 13, 12, 3 et 4.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr dès maintenant. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
La guerre en Ukraine fait planer la menace d'un nouveau choc pétrolier. C'est la crainte de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Alors dans les années 1970, deux événements de cet ordre sont survenus à moins de 6 ans d'intervalle, frappant durement l'économie mondiale. Un premier en 1973 et un deuxième choc pétrolier en mars 1979. C'était il y a tout juste 43 ans.
Oui, cette deuxième crise pétrolière survient avec la chute du Shah d'Iran 2 mois plus tôt. Cela freine l'exportation du pétrole iranien. Conséquence de cette crise, baisse de la production et mécaniquement hausse des prix du pétrole. Le ministre de l'Industrie, André Giraud, s'exprime sur Europe 1 au micro d'Yvan Levaille.
Est-ce que vous allez à partir de là dire ce matin la vérité vraie aux Français ? La vérité vraie, comme toujours. Je ne veux pas cacher aux Français que la situation n'est pas rassurante pour l'avenir. Nous devons économiser l'énergie.
En France, le prix de l'essence et du gaz augmente de 15% au cours de l'année 79 et le fuel augmente de 37%. Les pays industrialisés réfléchissent à investir plus rapidement dans des énergies de substitution, comme le raconte le journaliste Jean-Pierre Joulin 3 mois plus tard sur Europe 1.
Il faut développer des énergies de substitution, notamment l'énergie électronucléaire, et relancer la production de charbon. Monsieur Ohira, Premier ministre du Japon, a insisté sur la nécessité de développer le nucléaire.
C'est vrai que cette crise affecte particulièrement le Japon, dont l'Iran était la seule source d'approvisionnement en pétrole.
Et les pays de l'OPEP, leur pays exportateur de pétrole, accumulent les réunions internationales en cette année 1979.
Oui, réunion à Genève en juin 79, puis sommet de Tokyo au Japon. Pour aboutir à un accord, les pays du G7 décident alors qu'il ne faut pas augmenter les salaires pour ne pas ajouter de l'inflation à l'inflation des matières premières. Et concernant le pétrole, ils se sont aussi mis d'accord, rapporte le journaliste Jean-Pierre Joulin.
Ils ont réussi à s'entendre sur un plafond chiffré des importations de pétrole jusqu'en 1985, c'est-à-dire sur une réduction commune, sur une fermeture partielle du robinet du pétrole se déversant chez eux. C'est la première fois que les 7 plus grands consommateurs d'énergie du monde s'entendent sur des mesures concrètes.
Le président Valéry Giscard d'Estaing, présent au sommet de Tokyo, évoque lui la nouvelle trajectoire économique que l'Europe devra désormais suivre.
Tracer le nouveau chemin, celui d'une croissance économisant l'énergie, une croissance plus sobre.
Et pour les pays producteurs de pétrole, en particulier l'Arabie Saoudite, l'augmentation du prix du baril se traduit à l'époque par des recettes importantes qui permettent de moderniser les infrastructures, mais aussi d'investir dans le tourisme et le secteur financier partout dans le monde.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, le pic des pollens et le retour des allergies respiratoires.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est bientôt 6h moins un quart. Excellent lundi 28 mars. Cette saison, les arbres sont en fleurs et les allergies respiratoires reviennent. D'ailleurs, le réseau national de surveillance aérobiologique nous a prévenus. Nous sommes en plein milieu des pics de pollen toute cette semaine et notamment sur une grande moitié nord du pays. Prévoyez de sortir les mouchoirs.
Bonjour Sophie Silcré-Grieux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes allergologue et membre de l'association Asthme et Allergies. Alors, qui sont les principaux responsables des allergies saisonnières, de ce nez qui coule et de cette gorge qui gratte?
Alors, en ce moment, ce sont les pollens de bouleau, EAU à la fin, et qui sont des cousins des pollens d'aulne et de noisetier, hein, qui donnent à peu près le même genre d'allergie. Mais c'est le bouleau qui est le plus présent et qui donne des pollens extrêmement abondants et agressifs en ce moment. C'est pour ça qu'effectivement, les gens, les nez qui coulent, les yeux qui grattent, ils sont pas bien du tout. Oui.
Est-ce qu'on attend d'autres pollens ensuite, les platanes, les graminées? Est-ce qu'ils vont s'enchaîner les uns derrière les autres?
Alors, en effet, on va avoir un enchaînement de différentes familles de pollens. On a le frêne aussi, mais le platane et la grande saison des pollens de graminées, à peu près du mois de mai au mois de juillet, août. Hein, tout ça varie selon les régions concernées. Mais en fait, quand les gens n'ont pas de chance, ils peuvent être gênés par les pollens d'arbres dès le mois de février, enchaînés avec les pollens de graminées entre mai et juillet. Et s'ils sont encore plus malchanceux, ils peuvent être allergiques aux pollens d'herbacées, dont le plus connu est l'armoise, en fin d'été. Donc on a des patients qui sont gênés 7 à 8 mois par an par le pollen.
Est-ce que le beau temps en ce moment, la hausse des températures, ça a une influence sur ces augmentations de réactions allergènes?
Ah oui, incontestablement, la hausse des températures s'accompagne d'une hausse des symptômes pour plusieurs raisons. D'abord parce que la hausse des températures augmente la pollinisation et l'air sec permet une plus grande dissémination des pollens dans l'air, donc on en respire plus. Par ailleurs, il y a un phénomène annexe qui joue un rôle pas négligeable, ce sont les pics de pollution qui accompagnent ces hausses de température et qui, d'une part, irritent les voies respiratoires et rend les gens allergiques encore plus vulnérables au pollen. Et aussi, ça on le sait moins, les polluants ont une action abrasive sur les pollens qui les rendent encore plus allergisants.
Ces dernières années, ces dernières décennies, est-ce que vous avez constaté une augmentation dans l'intensité des symptômes et de leur durée?
Incontestablement, on a constaté ça. Plus de patients, des symptômes plus sévères, plus persistants, qui démarrent plus tôt, qui durent plus longtemps. Et il y a un phénomène qu'on a constaté aussi, c'est la croissance du nombre d'allergies croisées alimentaires. En pratique, ça veut dire que les gens qui sont allergiques au pollen de bouleau avec des symptômes respiratoires, qui ont d'un simple rhume des foins, de l'asthme, développent parallèlement des allergies croisées à des fruits et se mettent à ne plus tolérer certains fruits courants, hein, comme les pommes, les cerises, les pêches, les fruits à noyaux, les fruits à coque, avec des syndromes allergiques dans la bouche et la gorge. Et c'est un phénomène qui est une allergie croisée entre ces fruits et le pollen de bouleau.
Vous l'expliquez comment, cette augmentation des symptômes et de la durée?
C'est certainement multifactoriel, il y a certainement plusieurs choses en cause. On ne peut pas s'empêcher de penser que les changements environnementaux et l'évolution du climat sont pour quelque chose dans le fait que les symptômes apparaissent plus tôt, la pollinisation est plus précoce, plus importante, et aussi parce qu'on voit des espèces végétales apparaître dans des régions où elles n'existaient pas auparavant. Donc on a une multiplication des facteurs allergisants, des plantes allergisantes. Donc ces phénomènes environnementaux sont prédominants et majoritaires, ce qui explique l'accroissement et l'accroissement de sévérité des allergies.
Ces allergies saisonnières peuvent se déclencher à n'importe quel moment de la vie, qu'on soit enfant ou adulte ?
Alors, les allergies saisonnières démarrent souvent dans l'enfance, parfois même la petite enfance. À partir de 3-4 ans, ça peut commencer. Et c'est aussi un phénomène nouveau. On voit des gens de plus en plus âgés qui vont être atteints par ce type d'allergie, même si la population jeune est prédominante. Les manifestations allergiques se déclenchent le plus souvent chez les gens jeunes, de moins de 40 ans. Mais enfin, on commence à voir des gens plus âgés dans nos consultations.
Alors venons-en au conseil, maintenant que nous avons fait le constat. Je rappelle que vous êtes allergologue, membre de l'association Asthme et Allergie. Quel bon geste à adopter ? Qu'est-ce que vous préconisez pour, disons, éviter le pire ?
Le bon geste, déjà, c'est de consulter, parce qu'on sait que les gens attendent en moyenne 7 ans avant de consulter, parce qu'ils perçoivent l'allergie comme étant une fatalité. Non, c'est plus une fatalité, on peut faire quelque chose. Donc c'est de consulter, mais dans l'immédiat, pour les patients qui sont gênés avec des symptômes modérés, ils peuvent aller à la pharmacie acheter des antihistaminiques. Il y en a maintenant qui font pas dormir ou très peu, qui sont bien tolérés et efficaces. Si c'est pas suffisant, s'il y a d'autres symptômes, notamment des symptômes respiratoires comme de la toux, une respiration sifflante, un essoufflement, il faut là impérativement consulter rapidement pour avoir un traitement adapté aux soins de l'asthme. Parce que si c'est un asthme, on peut pas se contenter d'antihistaminiques. L'autre réflexe, c'est de noter à quelle période on est gêné, parce que si le bilan allergologique se fait un peu plus tard, c'est bien de se souvenir à quelle période on a été gêné. Maintenant, d'un point de vue pratique, éviter d'aller faire du sport dans les bois, les forêts, les jardins, quand on sait qu'on est allergique, qu'on se doute qu'on est allergique au pollen, faire du sport en extérieur plutôt en tout début de journée ou en fin de journée. De la même façon, c'est mieux d'aérer chez soi, parce qu'il faut aérer, sinon on se retrouve avec les polluants intérieurs en plus. Donc il faut aérer, mais tôt le matin et en fin de journée. Quand on rentre chez soi, c'est bien de se brosser les cheveux, de se rincer le visage, de prendre une douche, d'enlever ses vêtements, qui sont porteurs de quantités importantes de pollen et qui continuent à exercer leur pouvoir allergisant parce qu'on les a ramenés avec soi sur l'oreiller ou sur le canapé. Donc se débarrasser un peu des pollens qu'on a sur soi, alors en se brossant les cheveux, en se rinçant le visage, mais aussi en faisant éventuellement des lavages de nez avec de l'eau de mer ou du sérum physiologique, et se rincer les yeux, parce que tout ce qu'on éliminera comme pollen, eh bien, ce sera ça en moins pour les symptômes.
Merci beaucoup, Sophie Silcré-Grieux. Je rappelle que vous êtes allergologue et membre de l'association Asthme et Allergie. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Bonne journée.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51, le retour de l'info, Alban Le Prince.
Nous sommes le 28 mars et la campagne présidentielle démarre officiellement aujourd'hui en France. À 2 semaines du premier tour, les candidats ont organisé des meetings de taille hier sur le Prado à Marseille pour Jean-Luc Mélenchon, au Zénith de Paris pour Yannick Jadot. Éric Zemmour était au Trocadéro tandis que Marine Le Pen a connu un week-end chahuté en Guadeloupe. En Corse, plus de 500 personnes se sont rassemblées devant la caserne de CRS de Furiani hier. Rassemblement sous tension, à l'appel des organisations indépendantistes qui accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise vendredi, jour des obsèques d'Ivan Colonna. Et puis aux Oscars, Coda, le remake américain de La Famille Bélier, vient d'être sacré ce matin meilleur long métrage, film pour lequel Troy Kotsur, sourd de naissance, a reçu l'Oscar du meilleur second rôle.
Excellent lundi à tous, et comme chaque début de semaine, c'est notre chronique série.
Et avec Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Omblin et Julien.
Bonjour Marie. Un air de romance à la Jane Austen, sauce Netflix, c'est le retour de la chronique des Bridgerton. La première saison avait battu, Marie, des records d'audience lors des fêtes confinées l'année dernière.
Et oui, Netflix reprend la même recette, les best-sellers de Julia Quinn adaptés avec une bonne dose de modernité. Les amourettes aristocrates au début du 19e siècle à Londres. Alors oui, ça rappelle Orgueil et Préjugés et un peu Gossip Girl. L'année dernière, rappelez-vous, nous suivions l'éducation sentimentale de l'ingénue Daphné avec le très beau duc de Hastings. Cette année, la chronique mondaine qui rapporte tous les ragots à la cour royale s'intéresse à d'autres protagonistes.
C'est cette saison que le vicomte a l'intention de trouver une femme.
Votre Majesté, puis-je vous présenter Miss Kate Sharma et Miss Edwina Sharma?
J'espère seulement que je leur plairai.
Tout ce que tu as à faire ce soir, c'est te rappeler ce que tu viens chercher.
Un homme charmant.
Nouvelle saison, nouvelle romance, toujours la même intrigue.
Et vous l'avez entendu, au cœur de cette saison, le vicomte Anthony Bridgerton, le fils aîné de la famille Bridgerton, qui veut se trouver une femme. Il décide de se ranger, mais difficile avec sa réputation de débauché.
Si Hastings en est sorti, ça doit être faisable.
Oh, voilà qui est parlé avec le cœur.
Le cœur n'a rien à voir dans l'affaire. Ce dont j'ai besoin, je l'ai. À savoir une liste supportable, dévouée, des hanches assez larges pour enfanter et un tant soit peu de cervelle. Et ce dernier point n'est pas tant une exigence qu'une préférence, en fait.
Alors, ce charmant personnage va enchaîner des rendez-vous galants, mais décevants, avant de s'enticher de deux sœurs, nouvelles dans la série, Miss Sharma et Miss Edwina, venues d'Inde. Et la grande sœur, Miss Sharma, ne veut surtout pas que sa petite sœur cède aux avances de ce prétentieux vicomte.
Il est parfois exaspérant. Il est incorrigible. Il n'est pas pour ma sœur. Et je ferai en sorte qu'elle s'en rende compte d'une manière ou d'une autre.
Le triangle amoureux qui oscille entre morale et sentiment se profile, rien de nouveau finalement, Marie, sous le décor rose bonbon de ce Londres aussi.
Alors l'effet de surprise de la première saison, le côté historique modernisé s'essouffle, on a toujours ce rendu très stylisé, agréable à regarder, les perruques monumentales et décorées, les mêmes robes aux 150 breloques et les décors fleuris, mais les personnages sont très maquillés, c'est assez frappant. Voilà, alors on aime toujours les comédiens et la mise en scène très théâtrale, mais l'intrigue peine à décoller. Il y a moins de ragots et un rythme toujours calqué au bal. Voilà, des Bridgerton un peu à tonne.
Le duc de Hastings, il est présent ou pas?
Non, pas du tout. Désolé, Ambline.
Ça va, on ne dérange pas les filles.
C'est vrai qu'on l'attendait vraiment.
On attendait qu'il revienne. Bon, on va se faire une raison. La chronique de Bridgerton, saison 2. À voir quand même sur Netflix, bien sûr. 8 épisodes d'une bonne heure. Hein. Il faut prévoir un peu de temps. Merci beaucoup, Marie Jiquel.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57.
Merci d'écouter Europe 1. Dans un instant, la météo, le journal et des tensions.
Des tensions en Corse hier lors de rassemblements devant deux casernes près de Bastia et d'Ajaccio. Manifestation à l'appel d'organisations indépendantistes qui accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise alors que se tenaient au même moment vendredi les obsèques d'Ivan Colonna. Un enterrement aux allures de funérailles nationales. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes. Ces milliers de personnes accompagnant un cercueil porté à dos d'homme. Le temps du deuil est-il terminé sur l'île de Beauté? Jusqu'où peut aller cette colère? On en parle dans une dizaine de minutes maintenant avec un homme qui connaît bien la Corse et toute sa complexité, le journaliste Jean-Michel Verne. Rendez-vous à 6h10. Et puis juste après, on blinde votre partition.
Si vous demandez à un Américain de dire quelques mots en français, il vous dira sans aucun doute bonjour, merci, mais pas seulement. Voilà, on peut remercier hein, Patti Labelle et sa leçon de français, son succès Lady Marmalade. La partition dans 20 minutes.
Anissa Dadi pour la météo et ça commence doucement à se gâter.
Alors très doucement, effectivement, le ciel va se voiler sur toutes les régions atlantiques entre les Pyrénées et la Normandie aujourd'hui. Fini le ciel bleu, azur et limpide. C'est d'ailleurs entre la Bretagne et la Normandie que les nuages seront les plus épais. Dans l'après-midi, ce voile nuageux va atteindre les régions centrales. En revanche, sur toute la moitié est du pays, le soleil domine encore. Donc même si le soleil sera masqué de temps en temps, profitez-en encore aujourd'hui, c'est une belle journée parce que ça va nettement changer à partir de mercredi. Dans le sud, on a encore un peu de vent d'automne, hein, jusqu'à 70 km/h. Les températures sont très douces. On a 1 degré à Nancy ce matin, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Vesoul, 7 à Paris et Libourne, 9 à Nantes et La Roche-sur-Yon, 12 à Biarritz. Cet après-midi, 15 pour Cherbourg, 17 à Lorient, 21 degrés à Chartres et à Nîmes, 22 à Paris et à Bordeaux et 23 degrés pour Strasbourg, juste pour exemple. Aujourd'hui, on a 21 à Lyon cet après-midi. Vendredi, on aura 6 degrés l'après-midi. Donc
oui,
ça va nettement baisser. Ouais.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Très bon début de journée à tous. Il est 6h. Et à la une, ce pic de pollution dans les Hauts-de-France et en région parisienne où la préfecture renouvelle la circulation différenciée. 35 agglomérations seront concernées par ces restrictions d'ici 2025. Une pilule qui sera difficile à avaler, redoutent les maires. Vous les entendrez dans un instant. Le début officiel de la campagne électorale avec un déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Dijon. C'est une information Europe 1. Le président candidat a déjà les contours de son futur gouvernement qu'on vous dévoilera dans cette édition. Et puis, quel est le point commun entre Alain Souchon, Zaz et Dany Briand? brillants, eh bien, ils ont tous commencé à chanter dans le métro. La RATP organisait ce week-end son casting annuel.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Noquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Angers, Saint-Étienne, Rennes, Toulon, toutes les villes de plus de 150 000 habitants seront concernées d'ici 3 ans. Des agglomérations avec bientôt une zone à faible émission, une ZFE, activée en cas de pic de pollution de l'air avec des restrictions de circulation.
Et c'est le cas aujourd'hui en Ile-de-France. Vérifiez d'ailleurs votre pastille critère. Seuls les véhicules avec une vignette 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler dans Paris et la proche banlieue.
Et dès l'année prochaine, le dispositif sera même durci. Les vignettes 3, 4 et 5 resteront aux portes de l'agglomération parisienne. Selon un sondage de l'Institut CSA, un tiers des conducteurs concernés estiment qu'ils n'auront pas les moyens de changer de voiture. Les maires d'Île-de-France redoutent une révolte sociale. Louise Sally.
Patrice Leclerc est maire communiste de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Si dans un an la zone à faible émission voit le jour, la majorité des automobilistes de sa ville ne pourra plus circuler.
Nous avons 8000 véhicules en critères 4, 5 et 3. On a une des populations les plus pauvres d'Île-de-France, donc c'est celles et ceux qui ne peuvent pas épargner. Il y a aussi les personnes âgées qui se disent « je ne vais pas me taper un emprunt sur 20 ans quand j'ai 85 ou 86 ans ». Et donc il faut aider davantage à faire baisser les coûts. Et c'est vrai aussi pour les petits entrepreneurs.
Il juge les aides de l'État insuffisantes pour aider les plus modestes à changer de véhicule. Beaucoup de maires du Grand Paris, de gauche comme de droite, le rejoignent sur ce point.
La peur de la réaction des gens est telle que les maires de la métropole refusent d'assurer les contrôles et demandent à l'État de faire les contrôles par des portiques automatiques. Ce sont des millions de véhicules et des millions de personnes qui vont être touchées quand on va arriver au critère 3. Moi, je n'écarte pas qu'une nouvelle révolte style gilet jaune ait lieu à l'occasion de cette mise en œuvre.
C'est par peur justement de ces tensions sociales que le calendrier de la mesure et la mise en place des verbalisations ont été repoussés à 2023.
Louis Salé du service Société d'Europe 1.
6h passées de 2 minutes sur Europe 1. La neutralité de l'Ukraine, l'idée fait son chemin. En tout cas, le statut est étudié par Kiev. Dans ce cas, le pays n'appartiendrait à aucune alliance militaire. De nouveaux pourparlers avec la Russie doivent démarrer aujourd'hui ou demain.
Un nouvel espoir d'apaisement au moment où la situation humanitaire est catastrophique à Mariupol, selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Dans la ville assiégée, 2000 civils ont été tués, 100 000 sont toujours bloqués. Emmanuel Macron s'entretiendra avec Vladimir Poutine dans les prochains jours pour organiser une opération d'évacuation.
Emmanuel Macron qui reprend le chemin de la campagne aujourd'hui à 13 jours du premier tour.
Il sera aujourd'hui à Dijon, en Côte d'Or, en visite dans un quartier populaire de la ville où il échangera avec des lycéens. Le président candidat qui se voit déjà en haut de l'affiche du second tour, c'est une information Europe 1, Jacques Serey. Emmanuel Macron a déjà une idée très précise de son gouvernement en cas de réélection.
Oui, s'il l'emporte, Emmanuel Macron s'apprête à changer de méthode. Fini les gouvernements pléthoriques. Aujourd'hui, celui de Jean Castex compte 16 ministres, 15 ministres délégués et pas moins de 10 secrétaires d'État. 41 postes au total en plus de celui de Premier ministre. Emmanuel Macron l'a confié à des proches. Il veut mettre fin à cette façon de fonctionner au plus haut sommet de l'État. Son souhait pour son éventuel second mandat, 15 ministres en fonction et pas un de plus, pas de secrétaire d'État, pas même de ministre délégué, un 15 de France et c'est tout. En revanche, le président sortant projette de confier des missions très précises avec un objectif et une date de fin sur certaines thématiques, des sortes de hauts commissariats sur la réforme des retraites par exemple, mais aussi sur des projets plus transversaux tels que la reconstruction de Notre-Dame. Le général Georges Lain, actuellement à la tête de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale, aurait tout à fait pu être nommé haut commissaire, confie un proche du président pour expliquer sa démarche. Mais ce souhait du candidat Macron s'annonce périlleux. Lui, qui a compté ces dernières semaines des ralliements de gauche et de droite, devra aussi tout faire pour contenter chaque sensibilité en termes de postes attribués, afin de ne pas risquer de voir apparaître des dissensions dès le lendemain de la nomination de son éventuel futur gouvernement.
Les informations de Jacques Serey du service politique d'Europe 1, la campagne électorale qui démarre officiellement ce lundi, avec une stricte égalité du temps de parole dans les médias audiovisuels. Vous toussez, vous avez peut-être la gorge qui gratte un peu, alors deux diagnostics possibles, le Covid, et vous faites partie des 110 500 nouveaux cas quotidiens, ou bien une allergie avec les pollens de bouleau et de cyprès de retour en même temps que le printemps. Pour éviter de passer les deux prochains mois avec la goutte au nez, écoutez les conseils de l'allergologue Sophie Silcré-Grieux. Elle était l'invitée d'Omblin Roche il y a 20 minutes. Écoutez.
La première chose, c'est tout simplement d'aller chez son pharmacien et de prendre des antihistaminiques, ça va au moins bien améliorer les choses. L'autre chose, c'est éviter d'aller courir en ce moment dans les bois ou en forêt, parce qu'on va respirer beaucoup plus de pollen. Quand on a marché dans la journée, hein, près d'à proximité des arbres ou d'herbes, eh bien, on est chargé soi-même de pollen qui viennent être piégés dans les cheveux, les cils, les sourcils. Et si on ne fait rien, on va déposer ces pollens sur son oreiller ou sur son canapé. Alors pour ça, on conseille de se brosser les cheveux, de se rincer le visage, pour éviter de continuer à être exposé au pollen. Mais si on commence à avoir des quintes de toux, une gêne respiratoire, il faut absolument consulter parce que ça peut être des signes d'asthme qui nécessitent d'avoir un traitement spécifique.
L'allergologue Sophie Silcré-Grieux, invitée d'Europe 1 ce matin. Julien, vous adorez ça, je suis sûre.
Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux.
Vous êtes très fort en matière de samba.
Absolument.
Ouais. Alors, n'y voyez pas de message personnel, Julien, mais est-ce que vous saviez que Dany Briand, et oui, a commencé sa carrière dans le métro, d'ailleurs,
non,
comme Zaz ou Alain Souchon?
Ah ouais.
Alors, qui sait, peut-être que ce matin, en allant travailler, vous allez peut-être passer à côté de la star de demain.
Ce week-end, la RATP a en tout cas organisé son casting annuel, car en théorie, pour chanter dans les couloirs du métro, il faut avoir été sélectionné. D'ailleurs, notre reporter Marc Jiquel a tenté sa chance.
Avant de divertir les 4 millions d'usagers par jour, il va falloir obtenir le précieux badge officiel de musicien du métro. Stella Sanson, la responsable RATP de cette pratique souterraine.
On les sensibilise sur des aspects de sécurité. On ne joue pas n'importe où, on ne joue pas n'importe comment, pas dans les rames, pas sur les quais. Mais après, ils sont libres de choisir là où les stations qui leur conviennent le plus.
Anaïs.
Oui, je suis un peu stressée.
Venue avec sa guitare, s'apprête à passer devant le jury.
C'est une visibilité, c'est aussi le fait de faire un concert spontané, chanter pour des gens qui parfois n'ont pas le temps, qui sont parfois très fatigués d'aller travailler. Pour moi, c'est un pari d'apporter à ces gens un peu de magie. Please mind the gap
between the train and the platform. Un jury composé entre autres d'Hilda Benou, la directrice artistique du festival Solidays.
J'espère que ça va être frais, que ça va être relevé, que ça va être enjoué, habité, voilà.
Audition réussie pour Anaïs, plus qu'à installer son ampli et remplir le chapeau entre deux correspondances.
Le reportage de Marie Jiquel.
On fait un détour par Los Angeles, aux États-Unis, avec la cérémonie des Oscars.
And the Oscar goes to... Okay, Coda.
Voilà, c'était cette nuit le triomphe de Coda qui remporte le trophée du meilleur long métrage. C'est l'adaptation américaine du film La famille Bélier en France, histoire de Ruby, seul membre de sa famille à ne pas être sourde. Et Troy Kotsur, qui joue le père, a même été le premier acteur sourd à remporter un Oscar pour le meilleur acteur dans un second rôle.
Merci beaucoup Romain Oquet pour toutes ces informations.
Il est 6h08, les sports. Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec de la Formule 1. Et la première victoire cette saison du champion du monde, Max Verstappen.
Oui, le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite après un week-end marqué par l'attaque des rebelles houthis à quelques kilomètres du circuit. Sur la piste, Verstappen a maté Charles Leclerc au terme d'une belle bataille. Lewis Hamilton lui termine à une triste 10e place. Côté français, en revanche, joli tir groupé. Esteban Ocon prend la 6e place et Pierre Gasly la 8e malgré quelques petits soucis. Écoutez.
Bah, ça a été vraiment une course mouvementée. J'étais vraiment malade dans la voiture les 15 derniers tours. Ça a été horrible à rouler. Donc, je suis vraiment content de finir en 8e position.
Pierre Gasly au micro de nos confrères de Canal+. Au classement, Verstappen se replace en 3e position derrière les deux Ferrari. Prochain Grand Prix dans 15 jours en Australie.
On passe au foot et les Bleus qui attendent l'Afrique du Sud.
Oui, match amical demain à Lille. Les Bleus qui devraient retrouver N'Golo Kanté et Kylian Mbappé absents contre la Côte d'Ivoire ce week-end, mais qui peuvent aussi s'appuyer sur quelques nouvelles têtes à l'image du monégasque Aurélien Tchouaméni, buteur vendredi pour la première fois.
Je suis milieu de terrain, donc le but, il est pas aussi important pour moi que pour un attaquant, mais ça fait toujours plaisir. J'ai mis du temps à réaliser que j'avais marqué mon premier but en sélection, mais maintenant c'est bon, j'ai réalisé et je suis très fier.
France-Afrique du Sud, c'est demain soir à 21h15.
Un mot de cyclisme, Martin, une grande première pour l'Afrique.
Oui, l'érythréen Binyam Guermey a remporté Gent Wevelgem. C'est la première fois qu'un Africain remporte une classique de ce niveau. Il a battu au sprint le Français Christophe Laporte et le Belge Dries Van Gestel.
Et enfin, Martin, du rugby, pour finir.
Oui, et Toulouse qui fête le retour de ses internationaux une semaine après le Grand Chelem. Hein, Dupont, Ntamack et consorts ont battu Lyon hier soir. Léo Garonnet remonte à la 3e place du top 14. Et puis le tournoi destination côté femmes, cette fois, a une entrée en matière réussie pour les Bleus. Victoire bonifiée contre l'Italie hier à Grenoble. La semaine prochaine, place au choc puisqu'elles reçoivent l'Irlande.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va parler de la Corse qui s'est à nouveau embrasée hier soir. 3 jours après les obsèques d'Ivan Colonna, le journaliste Jean-Michel Verne sera avec nous. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h12. Votre invité, Julien, est journaliste indépendant, auteur de plusieurs livres sur la Corse, dont Résister en Corse, sorti l'année passée aux éditions Robert Laffont.
Bonjour Jean-Michel Verne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous après ce week-end qui a, dans un premier temps, été très calme après les obsèques d'Ivan Colonna vendredi. Et puis la colère a pris le pas hier soir lors de rassemblements devant 2 casernes près de Bastia et d'Ajaccio. Des cocktails Molotov ont été lancés sur les forces de l'ordre. Des manifestations qui ont lieu à l'appel d'organisations indépendantistes qui accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise dans leur cantonnement et ce, prétendument pendant l'enterrement d'Ivan Colonna. Est-ce que ça y est, Jean-Michel Verne, le temps du deuil est terminé?
Oui, on peut dire que le temps du deuil est terminé. Je suis un peu étonné parce que d'habitude, ça dure encore quelques jours. Mais là, la situation est tellement tendue. Elle est tellement inquiétante. La rupture est, je dirais, presque consommée à Corse et la France. Voilà, finalement, c'est pas étonnant. Je m'étonne pas non plus que ça se passe à Bastia. Bastia, on a eu... jadis, enfin il y a quelques années, des incidents extrêmement graves avec les supporters du SC Bastia, qui étaient en fait plus ou moins téléguidés par les nationalistes. Donc voilà, moi je suis pas vraiment étonné par ce qui se passe.
Vous pensez que les violences vont s'amplifier dans les jours et semaines qui viennent ?
Alors il est clair que si pour parler ne s'engage pas très rapidement avec les autonomistes, avec des avancées, des annonces précises. C'est ça la difficulté, c'est de faire des annonces précises. Je pense que oui, la situation au niveau de la violence de rue risque d'augmenter. Ensuite, vous avez une deuxième menace, celle-là elle est extrêmement préoccupante, c'est celle d'une reprise des activités du FLNC. Alors, les clandestins qui sont
menacés de reprendre les armes, d'ailleurs.
Oui, voilà. Reprendre les armes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on repose des bombes, on refait des attentats, et ça, y compris contre les édifices publics. Et là, c'est une vraie déclaration de guerre à l'État français.
Est-ce que cette colère qui couve depuis quelques semaines, quelle est son origine ? L'agression mortelle qu'a subi Ivan Colonna en prison ou elle est plus ancienne, cette colère ?
Si vous voulez, l'assassinat d'Ivan Colonna, c'est un catalyseur qui fait d'Ivan Colonna un martyr, un symbole de la lutte nationaliste. Et à partir de là, on remonte un peu en arrière, c'est-à-dire sur ces années très très complexes de rapport entre l'État et les autonomistes qui réclamaient un certain nombre d'avancées, officialité de la langue corse, statut de résident, etc. Et là, voilà, tout se concentre et fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'on peut comparer, je le dis, à ce que fut Aléria. Aléria, souvenez-vous, prise d'otage dans une cave viticole, l'État qui tape du poing sur la table, qui envoie les gendarmes, qui donne l'assaut, 2 gendarmes sont tués. Ensuite, à Bastia, des manifestations comparables à celles que nous venons de vivre avec un CRS qui est tué, et puis création du FLNC. Et là, si vous voulez, ce qui est très extrêmement dangereux, c'est la frange la plus radicalisée, la plus dangereuse, je dirais la plus brutale, qui risque de prendre le pas sur l'autonomie politique.
Mais est-ce que tous les Corses, Jean-Michel Verne, ou du moins une majorité d'entre eux, partagent cette colère et les idées qui vont avec ?
Alors là, on va vous dire que c'est une majorité de Corses parce qu'ils ont eu d'excellents résultats aux dernières élections territoriales, hein, puisque toutes tendances confondues, les nationalistes vont faire 70% à peu près des voix dernières territoriales. Sauf que il y a eu aussi une abstention record. Ce qui signifie que beaucoup de gens ne sont pas allés voter, des gens qui jadis votaient pour les clans, ont laissé un peu la main aux nationalistes en attendant de voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a au sein de la communauté corse une large majorité qui n'a pas du tout, y compris au sein de gens qui sont de tendance autonomiste, il n'y a pas du tout la volonté de se détacher de la France, de devenir indépendant.
Et pourquoi on ne les entend pas, ces personnes? Pourquoi est-ce qu'elles restent silencieuses en ce moment? Qu'elles ne font pas un contre-feu au regard de tous les discours qu'on entend de ces manifestations ultra-violentes où on scande « Français de merde ».
Oui. Alors, vous avez justement l'une de ces personnes, qui est le frère de Marcel Lorenzon, qui est une figure du FLNC, décédé tragiquement après une altercation avec son fils. Et donc ce frère, qui manifestement est un militant convaincu de la cause autonomiste, tire en l'air, hein, si je puis dire, en disant « Attends, moi, je suis content aussi de savoir que j'ai trois sous-marins nucléaires qui sont en train de croiser en ce moment dans le contexte mondial. » C'est une façon de dire « Attention, n'allons pas trop loin. Revenons à des terres, avec en plus la menace dont on ne parle plus en ce moment, c'est celle de la dérive mafieuse qui mine l'île de Beauté.
Oui, ce qui est d'ailleurs le sujet de votre dernier livre, vous en parlez allègrement. Le gouvernement s'est dit prêt à discuter de l'autonomie de la Corse, ce qui était une demande de longue date des nationalistes, mais l'exécutif est très clair, hein, il n'y aura pas de négociation si la situation devient insurrectionnelle. Alors pourquoi risquer tout ça? Pourquoi mettre en danger cette perspective attendue depuis longtemps?
Alors là, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez une sorte de course à l'échalote entre autonomistes et indépendantistes.
C'est une manière de faire monter les enchères?
Si vous voulez, c'est une lutte de pouvoir au sein du clan national. D'un côté, il y a les autonomistes qui savent très bien qu'on ne peut pas arriver que cette borne là-bas, et puis les autres veulent aller au bout. Ils veulent aller au bout, ils veulent l'indépendance totale de la Corse. Et donc ça crée un conflit. Vous avez le conflit autonomiste, indépendantiste, État, et vous avez un conflit autonomiste, indépendantiste. Et celui-là, il couvre depuis les dernières élections où Gilles Simeone a raflé absolument tous les sièges. Enfin, je veux dire, a eu une immense majorité. Et ça, aujourd'hui, il y a une tentative de rééquilibrage des forces en faveur des indépendantistes.
Merci beaucoup Jean-Michel Verne d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé sur la situation en Corse. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Résister en Corse, chez Robert Laffont, et je m'excuse auprès des auditeurs pour la qualité de la liaison assez incertaine. Excellente journée à vous et à bientôt.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h19 sur Europe 1, ce sont les titres avec Alban Le Prince.
Ouverture officielle aujourd'hui de la campagne présidentielle. Il reste 2 semaines aux candidats pour convaincre les électeurs. Dernière ligne droite donc, alors que près de 4 Français sur 10 sont sûrs d'aller voter, mais ils ne savent pas pour qui, selon l'Institut BVA. Après le calme, la tempête en Corse, notamment à Furiani, où plus de 500 personnes ont manifesté devant la caserne de CRS à l'appel d'organisations indépendantistes. Elles accusent certains CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna vendredi dernier. La guerre en Ukraine et le couvre-feu décrété à Kiev doit être levé ce matin à 7h, heure française. De nouvelles négociations sont par ailleurs prévues entre Ukrainiens et Russes aujourd'hui ou demain. Dans le même temps, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine pour organiser une opération d'évacuation à Mariupol où 2000 civils ont été tués selon la mairie.
On conclut avec votre partition, Omblin, consacrée à la chanteuse Patti LaBelle. Exubérante, provocante, une diva soul, briseuse de codes, pour rappeler que la musique funk n'est pas uniquement une affaire d'hommes.
De Patti LaBelle, Julien, on connaît essentiellement le succès planétaire Lady Marmalade, on va y venir, mais ce dont il faut se rappeler, c'est qu'au cœur des années 70, le trio féminin dont elle est la chef de file véhicule la nouvelle image de la femme américaine et de surcroît afro-américaine, en cohérence avec le féminisme naissant et la mouvance du Black Power.
Oh,
Les années 60 sont révolues, comme Chaka Khan ou Betty Davis, Petit Label prend soin de déconstruire l'image sage des artistes féminines formatées par les maisons de disques.
Chanteuse rhythm and blues à Philadelphie, Petit Label a bâti sa réputation au sein des Bluebells, groupe de filles typiques des années 60. Nourries des mouvements de rébellion, d'émancipation et des combats pour les droits civiques, les jolies poupées chantantes, c'est terminé. Dans la première moitié des années 70, on assiste à l'ascension des divas funk. Elles sont fortes, sexy, fières, affirment leurs droits et leur féminité.
Et sur scène, Patti LaBelle est entourée de Nonna Hendrix et Sarah Dash.
Oui, elles apparaissent en short à paillettes ou dans des pantalons ultra moulants, flashy, perchés sur des bottes dorées montantes jusqu'aux genoux. La coupe afro a remplacé les cheveux lissés ou attachés en chignon. Les trois chanteuses viennent d'adopter le nom de groupe LaBelle. Et sur une section rythmique puissante, elles expriment pleinement leurs envies artistiques. Les labels injectent une bonne dose de rock à leur composition.
Et en 1974, les chanteuses se rendent à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer un nouvel album.
Patti LaBelle, Nonna Hendrix et Sarah Dash ont été conviées par un ponte de la production funk néo-orléanaise, le compositeur et pianiste Alain Toussaint. C'est lui qui, l'année précédente, a sorti The Pointer Sisters de l'anonymat. Alors pour accompagner les chanteuses, il engage The Meters à la rythmique. C'est l'un des groupes de funk les plus en vue du moment. Pour vous donner une idée, à l'époque il y avait notamment les Gibbies, les musiciens de James Brown, l'un des créateurs du genre, et les Meters, basés à la Nouvelle-Orléans, donc biberonnés au blues et au jazz.
Résultat de cette rencontre au sommet entre Alain Toussaint, The Meters et le groupe Label, l'album Nightbirds.
Et c'est Alain Toussaint qui a l'idée de faire de Lady Marmalade le titre phare du disque, l'histoire d'une prostituée à la Nouvelle-Orléans qui interpelle ses clients par cette chanson en français. Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Les chanteuses présentent le single sur la scène du Metropolitan Opera House de New York. Le succès est immense, numéro 1 aux États-Unis à la fin du mois de mars 1974. La chanson assure à Patti LaBelle et ses complices une renommée internationale. Français de Patti LaBelle et du groupe LaBelle en 1974. Lady Marmalade, extrait de l'album Nightbirds.
Voulez-vous coucher avec moi ? C'était sympathique. Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko.